Interview.
C'est Erdi Wa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Madame Marion Perrier. Bonjour.
Bonjour.
Madame Marion Perrier, vous êtes élue adjointe aux affaires sociales et santé et de la ressource humaine au sein de l'équipe municipale de Die et vous êtes aussi vice-présidente de la CCAS. Et Monsieur Yann Chevalier, donc responsable du service pôle social également au CCAS. Alors Marion Perrier, je vous avais sollicité pour nous parler un peu de l'avenir de cette maison médicale qui s'ouvrirait à la rentrée. Qu'en est-il à l'heure actuelle de ce projet ?
Ben, il est toujours d'actualité. Il est toujours prévu que le chantier soit terminé au 1er juillet et une ouverture avec les professionnels de santé au 1er septembre.
Ce cabinet médical, c'est une nécessité au niveau de la ville de Die, de manière à contenter aussi un certain nombre de personnes qui n'ont pas forcément de médecin traitant à l'heure actuelle.
Alors oui, sachant que dans la maison de santé, il y aura un pôle médical, un pôle dentaire et un pôle paramédical. Donc ça regroupe plusieurs corps de professionnels de santé. Et en effet, suite au départ de 3 médecins généralistes au cours des 2 dernières années, il y a beaucoup de patients qui se retrouvent sans solution de médecin traitant. Et la maison de santé pourra répondre en partie à ce gros problème.
Alors la maison de santé sera constituée de quelle équipe ? Qu'est-ce qui est prévu comme service ?
Alors il y a un pôle dentaire. Il sera constitué de 2 dentistes qui sont déjà des dentistes qui exercent à Die. Il y aura 4 cabinets médicaux dont au moins 3 seront occupés de manière sûre aujourd'hui avec 2 médecins qui sont déjà des médecins de Die. Et une nouvelle médecin qui pourra prendre du coup des nouveaux patients. Et ensuite, il y a un pôle paramédical qui est constitué d'une sage-femme, une orthophoniste et 2 cabinets infirmiers. Voilà, donc il va y avoir quand même pas mal de professionnels qui seront dans ce bâtiment.
Alors, c'est en quelque sorte une complémentarité de ce qui est proposé en service hospitalier dans la ville de Die. C'est votre idée ?
C'était pas mon idée, c'était un besoin qui existe depuis longtemps sur le territoire. C'est un projet qui a démarré il y a bien longtemps. Monsieur Berginia, puis Monsieur Trémollet ont largement contribué à faire émerger ce projet. Donc la construction de ce projet tel qu'il est aujourd'hui a démarré en 2017, donc sous le mandat de Monsieur Trémollet, où j'étais déjà en charge de la santé. Et là, voilà, il aura mis toutes ces années pour aboutir enfin, là, à l'été 2021.
Monsieur Yann Chevalier, donc vous êtes responsable de service pôle social au CCAS. Quelle est cette fonction et vous occupez de quoi précisément ?
Alors oui, le pôle social de la mairie de Die regroupe plusieurs services. Un CCAS, un centre communal d'action sociale. Du coup, c'est vraiment la politique d'action sociale choisie par l'équipe municipale qui est mise en œuvre par le CCAS. C'est en mairie. Du coup, on a une agent qui s'appelle Madame Catherine Eugène, qui a des permanences où elle reçoit les habitants de Die, les habitants et les habitantes qui rencontrent des difficultés ou pour de l'information ou de l'orientation sur l'accès aux droits, mais aussi des difficultés passagères. Voilà. Elle a aussi d'autres fonctions plus administratives qui nous aident beaucoup au sein du CCAS. Et puis, au sein de ce pôle social, on a 2 autres services. service, deux autres missions qui ne sont pas des missions obligatoires, mais c'est assez historique en tout cas, depuis de nombreuses années. La mairie de Die s'est engagée auprès des personnes en grande difficulté, en grande précarité notamment, avec un accueil de jour, SDF, et un hébergement d'urgence saisonnier. L'accueil de jour est situé avenue de la Clairette, beaucoup le connaissent, pas très loin du CFPPA, entre le CFPPA et Jaillance. C'est un petit pavillon où on accueille les personnes le matin en collectif pour boire un café, prendre une douche, laver son linge, ce genre de choses. Des services, on va dire, de première nécessité et l'après-midi pour tout ce qui est accompagnement social sur rendez-vous. Et l'hébergement d'urgence est ouvert en principe du 1er novembre jusqu'au 31 mars. Pour ça, on a des financements hein, de l'État pour ces deux services. Et on accompagne aussi les bénéficiaires du RSA qui n'ont pas de logement en répondant à un appel d'offres du département. Voilà. Et moi, je suis responsable un petit peu de cette équipe. Hein. On n'est pas nombreux, c'est une petite équipe. Hein, c'est pour ça, responsable de service. Mais je m'inclus dedans, dans le service, puisque je fais aussi l'accompagnement. On est quatre hein, dans ce service. Quatre titulaires. Voilà.
Je reviens vers vous, Madame Perrier. Donc, vous êtes déléguée aux affaires sociales. On peut imaginer que ça touche énormément de disciplines, le logement, la santé. Mais quoi d'autre aussi ?
Alors là, je rebondis sur le pôle social qui, du coup, va pouvoir accueillir des personnes et s'occuper de toutes les problématiques qui peuvent les toucher. Donc ça veut dire effectivement le logement, qui est une problématique assez importante sur le territoire, la santé également. Mais du coup, on a un très bon maillage territorial, c'est-à-dire que les réseaux existent, les partenaires se connaissent bien, travaillent très bien ensemble. Du coup, je pense qu'on ne peut pas prétendre répondre à tous les besoins, mais il y a quand même une offre de services qui est vraiment très intéressante sur le territoire. Et après, pour parler de mon mandat, je ne m'occupe pas que du CCAS, bien sûr. Et il y a plein d'associations qui existent sur le territoire, qui s'occupent justement, qui sont dans le champ du social, qui est un champ et qui on peut tout mettre à l'intérieur. Il y a la corderie, il y a les associations caritatives. Donc effectivement, ça peut toucher aussi l'alimentaire. Enfin, absolument tout ce qui peut toucher le quotidien et les besoins de n'importe qui, y a une réponse sur le territoire.
La crise du Covid a amené aussi beaucoup d'inégalités, a mis en évidence aussi celles qui existaient déjà. Est-ce que dans votre action et dans l'actualité aujourd'hui, vous ressentez ce gouffre ou du moins cette demande de la part d'une population un peu perdue, je dirais ?
Oui, effectivement. Alors, on va pas revenir sur l'épisode des confinements, mais effectivement, pendant les confinements, ça nous a beaucoup interrogé sur nos façons de faire, hein, puisque du coup, la plupart des structures étaient fermées. Il a fallu du coup se réorganiser et inventer de nouvelles façons de faire avec les partenaires du territoire. Hein. Je pense à l'ESCDD, l'espace social, hein, avec qui on travaille en lien là-dessus, ou alors avec la communauté de communes et plus particulièrement le contrat local de santé, Sonia Rochat, où on a beaucoup partagé pendant ces épisodes de confinement. Aujourd'hui, c'est un peu, on l'espère, derrière nous. En tout cas, les confinements ont moins d'impact, on va dire, sur notre quotidien. Et pour autant, il a beaucoup d'impact sur la santé mentale des personnes, sur un petit peu... Il y a beaucoup de personnes qui sont en manque de ce lien social, de revivre quelque chose qui n'est pas aussi contraignant, même si les mesures administratives sont certes nécessaires dans cette période un peu de crise sanitaire. Aujourd'hui, beaucoup ressentent ça d'une façon très vive dans leur quotidien et il y a besoin de soutien parce que il y en a beaucoup qui ont perdu pied effectivement à certaines périodes pour diverses raisons, parfois pour des raisons purement administratives, des pertes de droits à répétition. Il y a eu beaucoup d'erreurs avec la caisse d'allocation familiale, hein, la CAF, avec des ruptures de droits, des choses comme ça. Donc il a fallu accompagner ça. Accompagner aussi des fois l'isolement là, et du coup le fait de pouvoir remettre en lien les personnes petit à petit sur des petits collectifs Voilà. On a, du coup, il y a eu des actions qu'a menées ma collègue, par exemple, Sophie Lénard, en lien avec le théâtre, parce que l'insertion par la culture, ça prend une large place et c'est un vrai point d'appui pour recréer du lien social, recréer un peu aussi de choses un peu positives. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu des actions. Les actions sur l'échange de cartes postales avec le théâtre a été très bien accueilli par les personnes qui viennent à l'accueil de jour et qui a permis de rebondir sur d'autres actions, des ateliers de philosophie et puis bientôt encore d'autres actions, toujours avec le théâtre, en lien avec le théâtre, et dans l'idée de créer encore d'autres espaces, un peu ressourçants pour les personnes quand même.
Vous parlez de l'ESCDD, l'Espace Social et Culturel du Diwa. Lui aussi est sollicité pour améliorer certaines conditions ou d'amener des ateliers de réflexion aussi pour des demandes, et à savoir peut-être d'ouvrir un nouveau regard sur ce qui existe aujourd'hui.
Eh ben, le SCDD, effectivement, hein, ils ont cette mission de œuvrer pour le développement social sur le territoire. Et je trouve qu'ils le font vraiment très très bien. Ils sont vraiment à l'écoute de toutes les dynamiques. Et sur le territoire, il y en a des dynamiques. Hein, vraiment des personnes qui sont motivées pour créer des choses, mettre en place des choses, essayer de répondre à tous ces interstices où il y a rien du tout, ou alors d'imaginer en tout cas de nouvelles façons de faire. Et là, je trouve que le SCDD, ils sont vraiment à leur place et puis vraiment aux côtés des habitants. Et nous, on travaille en lien lorsque c'est possible, en tout cas sur certaines thématiques comme le logement, la santé des femmes, ce genre de choses, en lien avec le contrat local de santé sur la CCD, parce que c'est aussi... Il y a aussi cet aspect-là. En 2015, il y a eu un diagnostic local de santé qui a débouché sur ce contrat local de santé. Il y a beaucoup d'axes avec des points d'amélioration, des choses identifiées, des actions. Et c'est vrai que, du coup, en tout cas, le SCDD travaille beaucoup en lien avec la CCD là-dessus. Donc, je dirais, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas, je pense à l'action avec Pluviane sur...
Les habitants.
Ouais, avec les habitants. Hein.
Justement, par rapport à cette pandémie, ça a pu aussi mettre en difficulté les services des affaires sociales par cet accroissement de demandes. Comment ça s'est produit au niveau de l'organisation ?
Au niveau de l'organisation, ils ont continué à travailler. Ils ont continué d'accueillir les gens qui ne pouvaient plus être accueillis ailleurs parce que à l'accueil de jour viennent des personnes qui ont des logements et puis des personnes qui n'en ont pas. Et puis parmi les personnes qui ont des logements, il y a des gens qui ont besoin quand même d'être accompagnés. Et s'ils n'ont pas de lieu pour où on puisse les accueillir avec ce concept d'accueil inconditionnel, c'est un peu compliqué. Donc l'accueil de jour a continué de fonctionner. Et ça a été bien parce qu'on a vraiment constaté, en lien avec aussi les gendarmes et les soignants, qu'il y a eu un accroissement du mal-être avec cette crise sanitaire, une augmentation des hospitalisations, des problèmes psychiatriques. Et c'était vraiment encore plus important qu'il y ait des agents, des professionnels, des institutions qui puissent continuer d'accueillir ces gens-là. Enfin, c'est tout le monde d'ailleurs, et que les gens ne se retrouvent pas complètement isolés, seuls, avec tout ce climat anxiogène qu'il y a eu pendant toute la crise.
Depuis quelque temps, existe aussi l'agence France Service, installée avenue de la Clairette également, aux abords de l'espace la FPPA, je crois. C'est un partenariat également, et aussi vous avez une certaine présence au sein de ce service.
Alors oui, c'est un partenaire. Je crois que on peut vraiment se vanter d'être un territoire où absolument tous les partenaires sont en lien, ou presque, je ne sais pas, il y en a peut-être un ou deux qui ne le sont pas, mais sinon, vraiment, on se connaît tous, on est en lien. Donc effectivement, l'Espace France Service est un partenaire absolument essentiel, puisqu'ils vont aussi faire de l'accueil pour toutes les démarches qui peuvent être vraiment très compliquées avec le tout numérique maintenant. Des gens qui sont démunis, qui n'ont pas d'ordinateur ou qui ne savent pas faire les démarches. Là aussi, c'est un accueil un peu inconditionnel où on va pouvoir aussi orienter les gens. Donc, c'est essentiel que tout le monde se connaisse. Et puis, effectivement, il va y avoir bientôt une embauche de conseiller numérique autour de l'espace France Service, qui va graviter autour de l'espace France Service. Et donc ça, effectivement, dans ce cadre-là aussi, on est des partenaires de réseau.
Pour compléter aussi sur l'espace France Service, c'est vrai qu'ils ont cette mission de favoriser l'accès aux droits sur les démarches numériques et aussi de former les personnes pour qu'ils aient un petit peu plus d'autonomie. Mais ils travaillent beaucoup sur le DIWA. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, au sein du CFPPA sur Avenue de la Clairette, mais aussi sur tout le territoire du DIWA en faisant de l'aller vers. Ils sont en capacité aujourd'hui de proposer des rendez-vous sur divers lieux au sein de tout le territoire du DIWA. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à les interpeller. Il y a beaucoup de personnes qui effectivement sont très éloignées des démarches sur Internet, créer un espace, faire une demande de retraite. Aujourd'hui, c'est une véritable expédition pour certains. Et il n'y a plus de points d'appui sur le territoire, excepté France Service, effectivement, qui est en capacité de proposer leurs services au plus proche des habitants.
Je reviens à la santé avec les médecins. On pourrait constater quand même un déficit de médecins sur le DIWA à l'heure actuelle. Je ne sais pas, puisque il semble que c'est assez difficile de trouver un médecin traitant quand même. Donc ça, c'est une proposition, cette maison médicale, maison de santé, vous dites plutôt.
C'est une maison de santé qui accueille plusieurs professionnels différents. Alors, en effet, en fait, la structure même d'une maison de santé, elle peut être attractive pour les médecins parce que c'est beaucoup plus simple de travailler dans une maison de santé ou une structure assimilée, un pôle de santé, que dans un cabinet libéral avec beaucoup de charges, avec une amplitude horaire énorme et puis un travail très seul. Le fait d'être dans un regroupement de professionnels, ça permet quand même de travailler déjà avec d'autres branches, d'avoir un travail peut-être un peu plus motivant du fait d'être plusieurs et de pouvoir plus facilement accueillir de nouveaux patients. Donc, sachant qu'un médecin, un médecin de ville aujourd'hui accueille environ 1500 patients, ça veut dire que tout nouveau médecin qui arrivera à la maison de santé pourrait répondre déjà à ce manque de médecins traitants qu'il y a aujourd'hui. Sachant que depuis quand même le départ des trois médecins, des trois fameux médecins qui sont partis en peu de temps, il y a eu quand même des solutions qui ont pu être proposées. Même si elles ne sont pas suffisantes, il y a des solutions qui existent. Voilà, donc c'est quand même mieux que rien. Voilà.
À l'image de Saint-Nazaire-le-Désert, qui s'est constitué un cabinet médical virtuel grâce à une entreprise basée à Lyon, ça permet d'avoir en auscultation donc des personnes dans ce cabinet à Saint-Nazaire par le réseau numérique, donc à l'aide de certains outils de prise et de manière à diagnostiquer, bien que il ne soit pas il se présente plus comme une complémentarité au domaine médical, puisqu'il peut y avoir quand même des cas graves à traiter. Alors, est-ce que vous aussi, au niveau de DI, ou peut-être sur le DIWA, envisageriez-vous un développement de ce type d'aspect médical ?
Alors, pas spécialement, parce qu'à DI, déjà, il y a un hôpital. Donc, c'est une des grandes différences qui existent avec Saint-Nazaire-le-Désert, c'est-à-dire qu'ici, les patients peuvent plus facilement trouver un professionnel de santé. On a la chance d'avoir encore un service d'urgence qui peut répondre à des patients qui auraient un vrai gros problème de santé. Ensuite, il y a une télécabine de consultation comme ça à la pharmacie de Châtillon qui peut répondre déjà partiellement à cette demande-là. Et puis ici, il y a quand même un réseau de médecins qui ont envie de proposer des solutions. Il y a eu la mise en place d'un numéro de téléphone dédié à des consultations de dépannage, donc qui ne répond pas aux besoins de médecins traitants, parce que les médecins qui s'inscrivent dans ce dispositif ne peuvent pas proposer un suivi régulier aux patients. Néanmoins, les patients qui ont un problème peuvent trouver éventuellement une consultation en appelant ce numéro. Donc ça fait partie des solutions qui existent et qui nous font dire que pour l'instant, le réel est quand même un peu plus satisfaisant pour le patient, je pense, qu'une consultation à distance. Et pour l'instant, il n'y a pas ce besoin qui s'est fait sentir avec les professionnels avec qui j'en ai parlé. Voilà, donc pour l'instant, non.
Cela aborde quel domaine, les ressources humaines? C'est au sein de l'équipe municipale, c'est ça?
Alors moi, j'ai en charge, en lien avec Madame le maire, tout ce qui concerne le personnel communal, qui regroupe environ 80 agents. Alors, moi, je développe plus particulièrement des actions en direction du bien-être au travail. Voilà, on essaye de trouver, au niveau du personnel communal, ce que l'on pourrait faire pour améliorer les conditions de travail, pour améliorer... Bon, il y a toujours des petites choses qui ne vont pas. Et donc, moi, j'essaye de mettre en lien les services, de pouvoir proposer des outils de communication par moment, et puis d'écouter les agents et de proposer des solutions. Voilà.
Justement, ce personnel a un budget. Est-ce qu'il a ce budget a été impacté par rapport à cette crise économique liée aussi à cette pandémie, donc avec pour la municipalité beaucoup moins de revenus? Est-ce qu'il y a une garantie quand même d'emploi pour l'équipe municipale malgré cette crise?
Alors, il y a les services en fait municipaux. Ils ont tous été impactés par la crise dans le sens où forcément il a fallu mettre en place le télétravail, par exemple pour les agents qui travaillent en mairie. Mais bien sûr qu'il a été impacté. Mais il n'y a aucun risque de personnel au chômage, parce que si on parle par exemple du personnel des écoles, bon ben, même si les écoles ont moins fonctionné quand il y a eu les confinements, elles sont restées ouvertes. Il a fallu augmenter le travail du personnel de ménage, parce qu'il a fallu plus nettoyer, plus désinfecter. Donc le personnel a été impacté, mais vraiment par rapport à un travail plus important et aussi plus pénible. Ça a été aussi le cas pour le centre technique municipal qui a continué à fonctionner. Le service propreté a continué de ramasser les ordures, enfin les ordures, les petites corbeilles de la ville. Les espaces verts ont continué à fonctionner. Bref, tout le personnel a continué à travailler. Au CCAS, ils sont restés ouverts. Donc effectivement, la crise a impacté, mais n'a mis personne au chômage et a coûté plus cher forcément puisqu'il y a eu plus de travail pour tout nettoyer, tout désinfecter.
Par rapport aux individus aussi et aux affaires sociales, c'était de savoir, par exemple, la saison des cueillettes d'arbres fruitiers, voire de la vigne, vont être fortement perturbées à cause de cette période de gel qu'il y a eu. Donc ça nécessite moins de personnel, donc moins d'emplois aussi pour les saisonniers. Est-ce que ça va être aussi impactant pour le quotidien de ces personnes qui vivent de cette activité? Est-ce que vous prévoyez des réflexions déjà sur ce sujet?
Alors, nous, au sein de l'accueil de jour, on reçoit pas mal de gens qui sont saisonniers, en tout cas une certaine partie, ceux qui vivent en camion, en habitat mobile et qui viennent sur le territoire, par exemple pour les pamprages ou pour la taille de la vigne et ce genre de choses. C'est vrai que l'année passée, on les a peu vus pendant la période de confinement parce qu'en fait, la plupart des employeurs se sont adaptés en proposant tous les services que nous, on propose, la douche, laver son linge, aux employés saisonniers. Du coup, on ne sait pas en fait s'il y a eu moins d'emplois ou pas sur l'année passée. Cette année, en tout cas, c'est impacté. Effectivement, le temps, on le voit, les pamprages, il se fait de façon très tardive cette année. Effectivement, sur les fruitiers, apparemment, il y a eu de gros problèmes et sans doute... Nous, c'est vrai que, en tout cas, depuis 2 ans, on constate beaucoup moins de saisonniers qui viennent sur le territoire. Bon, il faut dire aussi que c'est un travail qui est assez difficile, de plus en plus avec pas forcément une hausse de reconnaissance, voire même, je dirais plutôt, une baisse de reconnaissance dans la société, puisque ça devient de plus en plus difficile pour les saisonniers d'ouvrir des droits à l'assurance chômage, par exemple. Donc après, c'est difficile d'avoir une vision globale là-dessus. Je pense que certains acteurs du territoire auraient une vision beaucoup plus pertinente que ça, quoi.
Les affaires sociales, donc on en parlait au début, ça regroupe le logement, ça regroupait aussi d'autres secteurs.
Alors, on a mis en place en début de mandat, donc à partir du mois de septembre l'année dernière, on va dire, on a mis en place une analyse des besoins sociaux. C'est-à-dire que ça va être un diagnostic qui est mis en place par le CCAS pour pouvoir analyser quel type de besoins sont prépondérants sur le territoire au niveau social, pour que l'on puisse adapter jusqu'à la fin du mandat la politique sociale et qu'elle réponde au mieux aux besoins du territoire. Voilà, donc cette analyse des besoins sociaux, elle est largement conduite par Yann Renaud-Chevalier et Sonia Rochat de la communauté de communes, puisqu'on essaye vraiment au niveau local de pouvoir travailler au niveau du territoire, enfin de tendre le plus possible vers une échelle intercommunale pour pouvoir répondre à des besoins qui vont être extrêmement différents dans les petits villages du Haut-Diwa que sur Die, par exemple. Donc cette analyse des besoins sociaux, elle va... On a fait un gros travail d'analyse. Il y a des questionnaires qui ont été établis. Donc peut-être que Yann, tu pourras en dire un mot. Et il va y avoir une restitution prochainement. Et donc cette analyse des besoins sociaux, elle s'est focalisée sur le logement. Parce qu'effectivement, le logement, ça fait partie. Ce n'est pas la seule problématique, mais ça fait partie des problématiques qui sont extrêmement prépondérantes sur le territoire. Voilà, peut-être que tu peux compléter sur
la thématique du logement. Effectivement, on, l'idée, c'est d'interroger non pas le logement de façon globale. Il y a déjà eu beaucoup d'études de la communauté de communes ou de la CAF, sur certains axes. Donc l'idée aujourd'hui, c'est plutôt d'avoir un focus, d'interroger qu'est-ce qui favorise l'accès et le maintien pour les personnes fragiles dans un logement. Pourquoi ? Parce qu'on a, en tout cas, on a le sentiment que sur Die, c'est effectivement difficile pour certains d'arriver à payer leurs charges qui sont devenues très, très, très fortes, ou même pour certains d'accéder à un logement avec un loyer qui soit adapté à ses ressources. Et pareil, après, pour du coup, en termes de personnes fragiles, il y a du coup les personnes qui vivent une certaine précarité au niveau des ressources, mais dans les personnes fragiles, on inclut aussi les personnes handicapées. Et du coup, qu'est-ce qui favorise l'accès et le maintien dans un centre-ville où on sait assez... avec un bâti assez historique. et pareil pour les personnes âgées, dépendantes et isolées dans leur logement. Qu'est-ce qui peut aider du coup, l'idée, c'est non pas d'identifier ce que la mairie doit faire, mais plutôt d'identifier les pistes d'action qui seraient à mettre en place, de les partager tous en commun avec tous les acteurs et de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on peut mettre en place et pas de prendre la place d'un des acteurs dont c'est la mission aujourd'hui. Donc l'idée, c'est plutôt d'être complémentaire.
Au niveau logement, justement, je voulais y venir aussi. C'était par rapport à cet exode urbain qu'on peut constater depuis quelques mois. Et on peut se rendre compte aussi de cet achat de bâti dans le centre-ville et dans le Diwa en général qui a fortement augmenté. De là même à ce que certains locataires se retrouvent sans logement puisque leur immeuble est vendu. Est-ce que vous prévoyez ou vous anticipez cette difficulté à venir aussi pour le logement ?
Moi, je dirais qu'aujourd'hui, les outils qu'on utilise par rapport à l'analyse de besoins sociaux, c'est des outils de statistiques, d'accord ? Ces outils se basent uniquement sur des chiffres, du coup, qu'ont l'INSEE ou des acteurs comme ça. Et aujourd'hui, les chiffres avec lesquels on travaille, c'est des chiffres de 2018. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, on le ressent sur le territoire qu'effectivement, il y a... une sorte de tension, en tout cas, beaucoup parlent de nouveaux arrivants, de venant effectivement de zones urbaines, d'augmentation des prix à l'achat. Mais aujourd'hui, on n'a rien de tangible au niveau des chiffres. On ne sait pas combien ça représente de nouveaux arrivants. Et du coup, c'est difficile d'estimer une politique vis-à-vis pour répondre à ce besoin aujourd'hui. En fait, c'est l'analyse des besoins sociaux qu'on mène actuellement. L'objectif, c'est de pouvoir réinterroger les besoins sociaux. Un petit peu, soit toutes les années, soit tous les deux ans, et pour effectivement répondre à ces nouveaux ou futurs besoins. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est trop tôt pour en parler.
Oui.
Voilà, un sujet à suivre. Marion Perrier, vous êtes adjointe élue sur deux mandatures avec une étiquette politique différente pour chaque municipalité. Ce sont vos compétences qui vous maintiennent à ce poste ?
Est-ce que c'est mes compétences ? Alors, Moi, je n'ai pas d'étiquette politique. J'ai jamais appartenu à aucun parti. Quand je me suis engagée auprès de Monsieur Trémollet en 2014, c'était une liste sans étiquette. C'est comme ça. C'est cette raison qui m'a poussée à rejoindre cette équipe. Il y avait des gens que je connaissais qui avaient plein d'idées différentes. Et je me suis dit, ça fait la richesse d'un groupe d'avoir des gens avec des idées différentes, dont certains partageaient le même genre d'idées que les miennes, mes valeurs également. Et j'ai pratiquement fait tout le mandat avec M. Trémollet. C'était une expérience qui était vraiment très enrichissante pour moi. Ça ne collait plus, donc j'ai décidé de ne pas rempiler avec cette équipe. Et puis, j'ai trouvé un autre type de fonctionnement avec d'autres gens. Et effectivement, je suis toujours la même personne et je suis toujours animée par les mêmes envies, les mêmes valeurs et les mêmes objectifs.
Et M. Chevalier, qu'est-ce qui vous destinait justement de travailler sur le social en particulier ?
Alors, moi, j'ai un parcours un peu atypique, on va dire, puisque j'ai travaillé dans le champ de industriel pendant pas mal d'années, avant d'aller vers une reconversion dans le champ du social. Aujourd'hui, je suis travailleur social, je suis assistant social, et c'est ce qui m'anime. Pouvoir travailler sur un territoire, participer à l'élaboration un petit peu de changements, de dynamiques, autant sur l'aspect collectif que sur l'aspect humain, pouvoir accompagner les personnes dans leurs difficultés et pouvoir accompagner des groupes à travailler sur le changement, des changements collectifs qui bénéficient à tous, en fait. Voilà.
Madame Perrier, vous êtes certainement beaucoup sur le terrain aussi pour constater un peu l'évolution sociale et économique aussi de Die et de ses environs peut-être. Est-ce que pour vous, il y a encore beaucoup de travail à accomplir pour donner un minimum de confort ?
Alors, du travail, il y en a tout le temps, puisque, comme disait Yann, je pense que tout évolue rapidement. Donc là, on constate au niveau de la population qu'il y a vraiment beaucoup de nouveaux arrivants, des gens qui viennent sur le territoire parce qu'en fait, ils fuient les villes, parce qu'avec le confinement, ils sont aperçus que c'était bien de pouvoir être avoir un petit bout de verdure, d'avoir la montagne juste à proximité. Et grâce aussi à des structures qui permettent le télétravail, à Die, qui sont quand même relativement récentes, ça permet à des gens qui travaillent à Lyon ou même à Paris de pouvoir s'installer dans les communes rurales et de pouvoir conserver leur travail dans les grandes villes. Donc, il y a du progrès à faire. Après, au niveau économique, on sait bien que, comme beaucoup de petites villes, le commerce local est en difficulté. C'est difficile d'avoir une boutique qui marche bien dans une petite ville, parce que même si on a des commerces de grande qualité, Internet est une concurrence redoutable, parce qu'on sait maintenant qu'on peut commander à peu près tout et n'importe quoi sur plein de plateformes, qu'on est livré gratuitement en 2 jours, et que je pense que là aussi le confinement a beaucoup modifié les habitudes des consommateurs. Donc il faut qu'on se batte pour que le commerce de proximité survive et qu'on reste attractif à tous les niveaux.
En substitution des chiffres que vous avez de 2018 de l'INSEE, qui n'est pas forcément à jour vu le contexte pandémique, est-ce que vous, complémentarité de la CCD, est-ce qu'eux-mêmes aussi font des études de territoire pour pouvoir justement y déceler des problématiques ?
Alors oui, on travaille beaucoup. Nous, on travaille sur les différents réseaux qu'a mis en place Sonia Rochat du contrat local de santé, où effectivement il y a déjà de nombreux axes de travail qui ont été identifiés, notamment il y avait 2 réseaux de santé qui existaient jusqu'en 2020, qui étaient le réseau de prévention du risque suicidaire et le réseau de prévention du risque des addictions, qui ont fusionné au sein d'un contrat local de santé mentale auquel on participe et qui a vocation à développer un petit peu des actions qui favorisent la santé mentale, mais du coup le mieux-être en tout cas sur le territoire, et qui favorise aussi l'articulation entre les différents acteurs. Nous, c'est vrai que pour parler là du champ de la santé au sein du pôle social, c'est un axe qui est très fort. Je prends l'exemple de l'accueil de jour, où on accueille des gens qui peuvent rencontrer des difficultés dans un parcours de soins. Soit ils s'en emparent, soit ils s'en emparent pas, peu importe. L'idée, nous, c'est d'être un petit peu là où ils nous attendent. Donc, quand c'est accompagner, par exemple, quelqu'un qui n'ose pas aller à une consultation parce que... Bah, pour plein de freins différents, c'est pouvoir lui proposer de l'accompagner physiquement à cette consultation, de pouvoir accompagner l'accès aux droits, si c'est aussi un frein, pouvoir accéder à des médicaments, faciliter tout ce qu'on peut faciliter. Lui faire un plan pour aller à l'hôpital de Valence, ou alors lui trouver un taxi qui permet la prise en charge du transport. Donc, tout ça, ce sont des petites actions dont on découvre le besoin à travers ces réseaux où on discute avec les partenaires de soins, que ce soit les infirmiers du CMP, les infirmiers de l'hôpital, les travailleurs sociaux de l'hôpital ou je ne sais quel autre acteur. L'idée, c'est du coup, nous, c'est de pouvoir remplir ces espaces-là où il y a un besoin. Sinon, les gens, en fait, pour prendre l'exemple de la santé, ils perdent, ils laissent tomber le parcours de soins parce que c'est trop complexe. Donc, en tout cas, je ne sais pas si il y aurait sans doute d'autres thématiques où on pourrait parler de ça, mais nous, sur l'axe de la santé, en tout cas, on essaye d'être présents. Il y aurait d'autres axes, effectivement, sur le logement, éviter. On travaille en partenariat aussi avec le centre médico-social. Le centre médico-social qui est quand même l'acteur du département, qui est la politique sociale du département. C'est du coup des assistantes sociales qui sont là pour être référents et accompagner les personnes, de toutes les personnes du DIWA, y compris DI, dans un parcours, si elles rencontrent une difficulté passagère ou plus longue. Voilà. Donc là aussi, nous, on essaye de travailler avec les assistantes sociales du centre médico-social, si on peut aider sur des parcours, essayer d'être un point d'appui de temps en temps, sans se substituer. Voilà.
Là, c'est un sujet à part, je ne sais pas si on pourrait en parler. C'est par rapport à certaines facturations, notamment celle de l'électricité. Par correspondance, j'ai lu, et ça me concerne aussi, j'ai lu quand même des personnes qui se plaignent de voir leur facture passer du double, voire au triple de la somme habituelle. Donc, y a des aberrations au niveau de la facturation électrique, je pense. Est-ce que vous avez eu, vous, des remontées aussi de cet ordre ?
Alors moi, oui. Et puis, je suis concernée aussi. Donc, moi aussi, j'ai vu ma facture bien augmenter. Personnellement, ça a correspondu au moment où, à l'installation des nouveaux compteurs qui ont après fait monter en flèche les factures. Donc, effectivement, après, nous, on n'a pas de compétences là-dessus. On reçoit les gens qui ont du mal à régler leurs factures d'énergie. On peut les orienter vers des structures type centre médico-social, justement, pour aider à ces factures. Mais après, on n'a absolument aucune compétence dans cette matière-là pour pouvoir savoir d'où ça vient et est-ce que ça va pouvoir être régulé.
Est-ce qu'il y a des événements un peu festifs qu'on pourrait peut-être annoncer aussi pour la saison estivale ?
Alors déjà, ne serait-ce que la réouverture du cinéma et du théâtre, moi, je trouve que c'est festif. Il y a une programmation de grande qualité, comme d'habitude, au théâtre et au cinéma. Donc, on peut parler de festif. Après, effectivement, cet été, quand on a réfléchi à est-ce qu'on pouvait programmer des festivités dans l'été, c'était très compliqué parce que les normes sanitaires... On ne les connaît pas vraiment. On sait que ça va aller de mieux en mieux, mais on n'est pas à l'abri à un moment donné qu'on nous dise finalement, il y a des normes qui vont se resserrer, etc. Donc, on va essayer de proposer des temps un peu festifs et conviviaux dans l'été. Mais pour l'instant, on n'a pas une programmation particulière. Voilà, après, c'est vrai, je vais quand même juste dire qu'on va probablement adhérer à l'Association nationale des villes et territoires accueillants pour que on puisse encore plus dans ce contexte difficile être une terre d'accueil pour les personnes qui ont besoin d'être accueillies, notamment les populations migrantes. Donc il va y avoir un petit temps festif qui va être programmé par rapport à ça. Mais pour l'instant, c'est un peu tôt d'en parler puisque y a plein d'incertitudes encore à ce niveau-là.
Marion Perrier et Yann Chevalier, je vous remercie tous deux d'être venus nous parler de l'actualité municipale et notamment des affaires sociales, santé et puis des ressources humaines et du pôle social au CCAS. Je vous souhaite une bonne soirée.
Eh ben, merci, soirée. Vous aussi.
Au revoir. Merci.
Au revoir.
It's getting so much colder. It's getting so...